Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 27 septembre 2023, en direct de Washington, Idrissa Seludia. Pour commencer les titres, au Burkina Faso, manifestation de milliers de personnes pour empêcher, selon elle, un éventuel coup d'État dans le pays. Et au Mali, une alliance de groupes armés pro-gouvernementaux du Nord se dissocie de la reprise des hostilités dans la région. Au Nigeria, appel à une grève nationale face à la hausse du coût de la vie. Suspension d'une partie de l'aide américaine au Gabon suite au coup d'État dans ce pays. Un juge de New York déclare Donald Trump responsable de fraudes financières répétées avant le procès civil de l'ex-président américain. Son rival démocrate Joe Biden est allé apporter hier un soutien historique aux ouvriers de l'automobile en grève. De son côté, M. Trump est attendu sur place aujourd'hui. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, des milliers de personnes sont descendues hier soir dans les rues pour, disent-elles, empêcher un éventuel coup d'État dans le pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ils étaient des milliers, ces manifestants se réclamant des soutiens et partisans du pouvoir. Ils ont pris d'assaut toutes les grandes artères de la capitale burkinabé Ouagadougou. Mais pas que la capitale. Dans d'autres villes à l'intérieur du pays, tels Bobo Dioulasso et Gawa, ces soutiens affirment tous qu'ils ont eu vent d'une éventuelle tentative de coup de force contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et pour prévenir cela, disent-ils qu'ils sont descendus dans les rues. Depuis plusieurs mois, des partisans du pouvoir veillent chaque nuit dans les grands carrefours de Ouagadougou. Les rumeurs de coups de force se sont multipliées ces derniers temps au Burkina. Début septembre, trois militaires, des sous-officiers, ont été inculpés, placés en détention préventive pour complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, selon le parquet militaire. Ils ont tous reconnu sans embâge les faits, avait ajouté ce tribunal. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Lamine. Par ailleurs, le média français Jeune Afrique a protesté hier contre la suspension de sa diffusion au Burkina Faso, annoncée la veille par le gouvernement de ce pays. Les autorités burkinabées dénoncent spécifiquement ce qu'elles ont appelé un nouvel article mensonger sur le site du journal Jeune Afrique intitulé « Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l'armée ». Cette suspension est une atteinte de plus à la liberté d'information dans un pays, celui de Norbert Zongo, a écrit Jeune Afrique dans un communiqué en référence au journaliste burkinabé assassiné en 1998. Depuis un an, le régime burkinabé, dirigé par des militaires après deux coups d'État en 2022, a suspendu temporairement ou sine die la diffusion de plusieurs chaînes de télévision ou radio et expulsé des correspondants étrangers de médias français notamment. Au Mali, une alliance de groupes armés pro-gouvernementaux du nord du pays s'est dissociée mardi des hostilités récemment relancées contre l'armée. Hostilités relancées par d'autres groupes signataires d'un important accord de paix avec le gouvernement central. Mohamedou Houmfa.
La plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, communément appelée la plateforme, écrit dans un communiqué qu'elle n'est nullement engagée dans la confrontation armée en cours ou à venir avec l'État du Mali. Elle les condamne et exprime son soutien sans faille au gouvernement. La prise de distance de la part de la plateforme confirme la CMA, Coordination des mouvements de la Zawad, alliance de groupes séparatistes à dominante Touareg, comme le fer de lance de la confrontation renaissante avec l'État central. La plateforme et la CMA sont deux acteurs de la crise provoquée par les insurrections indépendantistes et salafistes parties du Nord en 2012. La plateforme est une alliance de groupes armés pro-gouvernementaux qui ont combattu les groupes séparatistes formant la CMA. Plateforme et CMA ont signé en 2015 avec le gouvernement l'accord de paix dit d'Alger. Elles ont formé en 2021 le cadre stratégique permanent censé manifester leur réconciliation et favoriser la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Avec la reprise des hostilités, cet accord est moribond. Le nord du Mali est le théâtre depuis fin août d'une reprise des hostilités de la part de groupes armés à dominante Touareg contre l'armée malienne et d'une intensification des attaques djihadistes.
Les États-Unis ont annoncé hier soir suspendre une partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État fin août dans ce pays riche en pétrole et qui était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Eric Manira Kidza nous donne des détails.
Le gouvernement américain suspend une partie de son aide étrangère au Gabon, le temps d'évaluer l'intervention anticonstitutionnelle par des membres de l'armée du pays, a indiqué le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken dans un communiqué. Il n'a pas été précisé le montant de l'aide ainsi suspendue, ni les programmes directement visés, mais cette décision ne concerne pas les opérations consulaires ou de l'ambassade des États-Unis. Ce faisant, les États-Unis se conforment à des mesures prises par des organisations régionales et d'autres pays, et cela continuera le temps d'examiner les faits sur le terrain au Gabon, a-t-on précisé de même source. Nous poursuivons nos opérations gouvernementales au Gabon, y compris diplomatiques et consulaires, en soutien aux citoyens américains, a ajouté M. Blinken.
Au Nigeria, les principaux syndicats ont appelé hier à une grève nationale la semaine prochaine pour protester contre la réponse du gouvernement face à la hausse du coût de la vie, Clermont-Régibourg.
Les deux principaux syndicats de travailleurs, le NLC et le TUC, ont indiqué devoir appeler à une grève illimitée à partir du 3 octobre, car le gouvernement n'avait pas répondu à leurs préoccupations. Dans un communiqué, ils ont indiqué que le gouvernement avait abdiqué selon eux et qu'il a fait preuve d'un manque flagrant de volonté d'agir. Le peuple et les travailleurs ont été abandonnés dans une pauvreté et un abattement atroce, ont-ils ajouté. Les coûts de la vie, des transports ont grimpé après la fin des subventions sur les carburants et le flottement du Naira, la monnaie nationale. L'inflation a grimpé à 25% et les prix des carburants ont triplé alors que le pays est un des plus importants producteurs de pétrole d'Afrique. Les autorités reconnaissent les difficultés des populations, mais affirment avoir distribué des fonds aux États de la Fédération pour atténuer les effets des réformes en cours.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le démocrate Joe Biden est devenu le premier président américain en exercice à se tenir sur un piquet de grève hier, rejoignant les ouvriers de l'automobile dans le Michigan. Son probable rival républicain en 2024, son prédécesseur Donald Trump, se rend aujourd'hui dans ce même État très disputé. Le point avec Rosine Mounezero.
Portant une casquette du syndicat United Auto Workers, Joe Biden a dit aux employés en chemise rouge, à l'aide d'un porte-voix, qu'ils méritaient bien plus que ce qu'ils reçoivent aujourd'hui. Entouré de travailleurs brandissant de pancartes syndicales à l'extérieur d'une usine General Motors près de Detroit, M. Biden, entouré d'agents des services secrets, a serré la main, les soutenant qui devaient recevoir une augmentation de 40%. Ce voyage, court mais symbolique, a eu lieu la veille de l'arrivée aujourd'hui de l'ancien président Donald Trump dans le Michigan, cœur historique de l'industrie automobile américaine et champ de bataille politique en 2024. Monsieur Trump espère reconquérir les électeurs qui l'ont aidé à se propulser à la Maison-Blanche en 2016, en promettant de restaurer l'industrie américaine, mais qui se sont ensuite retourné vers M. Biden 4 ans plus tard. Joe devrait avoir honte de se montrer devant ces Américains qui travaillent dur et qui poignardent dans le dos, a déclaré hier dans un communiqué l'ancien président.
États-Unis toujours, un juge new-yorkais a déclaré mardi Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Eric Trump, responsables de fraudes financières répétées dans les années 2010 dans l'évaluation des actifs de la Trump Organization, avant même l'ouverture lundi du procès civil dans cette affaire. La procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, qui avait porté plainte, réclame notamment 250 millions de dollars de réparations financières et des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches. Elle accuse M. Trump et ses enfants d'avoir gonflé de milliards de dollars leurs actifs pour, entre autres, obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques de 2011 à 2021. Monsieur Trump et ses avocats devraient faire appel et sur son réseau social Truth Social, l'ancien président américain a réaffirmé qu'il n'a rien à se reprocher et il a qualifié le juge qui a rendu la décision de « haineux à son égard ». Le Nagorno-Karabakh se vide de ses habitants. Mardi, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants continuaient de quitter cette enclave peuplée d'Arméniens sous le regard victorieux des soldats azerbaïdjanais. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé mardi l'Azerbaïdjan à respecter ses engagements de protéger les civils au Nagorno-Karabakh et à y permettre l'accès de l'aide humanitaire dans un appel téléphonique au président Ilham Aliyev. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
L'aéroport Blaise Diagne de Dakar a enregistré près de 1,4 million de voyageurs au premier semestre 2023, soit une hausse de 18% par rapport à 2022. Selon Ecofin, les compagnies aériennes nationales, Air Sénégal, Transair et Arc-en-Ciel ont été les plus importants contributeurs au trafic, ayant assuré près de 33% des vols totaux. Le premier semestre 2023 représente un taux d'activité supplémentaire de 19% en comparaison à la période d'avant Covid de 2019. Le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CDAO organise la 8e édition du Forum sur l'énergie durable prévu à Praia, au Cap-Vert, les 11 et 12 octobre. Ce forum va se focaliser sur les défis énergétiques urgents auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée. Pour les organisateurs, l'urgence est d'encourager l'investissement car les projets d'énergie durable nécessitent des budgets importants. Ici aux États-Unis, la FTC, l'autorité américaine de la concurrence, et 17 États ont porté plainte hier contre Amazon, le géant des technologies qu'ils accusent de maintenir illégalement son monopole grâce à des stratégies anticoncurrentielles et déloyales. Ce n'est pas la taille d'Amazon qui est en cause, précise l'institution, mais ses méthodes illégales qui visent à exclure les concurrents, à les empêcher de se développer et à des alternatives d'émerger.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaîtra aujourd'hui les pays hôtes des Cannes 2025 et 2027.
Oui, le comité exécutif de la CAF va se réunir ce mercredi au Caire en Égypte avant une conférence de presse de son président Patrice Motsepe, au cours de laquelle le Sud-Africain va annoncer l'identité des pays hôtes des éditions 2025 et 2027 de la Cannes. Hier, l'Algérie a retiré sa candidature pour ces deux Cannes, selon un communiqué de sa fédération de football. Ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la Fédération algérienne de football relative à la stratégie de développement du football en Algérie, indique la fédération qui a installé hier justement son nouveau président Walid Sadi. Pour 2025, il ne reste plus que la candidature du Maroc et celle présentée par le Bénin et le Nigeria. Pour 2027, l'Algérie était en concurrence avec le Sénégal, le Botswana ainsi qu'une candidature commune Kenya, Tanzanie, Ouganda.
Le monde du football au cœur d'une réunion de haut niveau au siège des Nations Unies à New York.
Au menu, des lacunes et les menaces existantes en matière du trafic d'êtres humains dans le sport et la manière dont la technologie peut être utilisée pour trouver des solutions durables. Selon la directrice du bureau de New York de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Delphine Schantz, plus de 15 000 enfants sont victimes chaque année de la traite des êtres humains depuis l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe avec le faux espoir de devenir footballeur professionnel. Invité, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, note que la réforme du système de transfert de la FIFA, qui comprend l'émission d'un passeport électronique du joueur, pourrait aider.
Le passeport du footballeur est donc un identifiant unique à usage mondial. Ce n'est pas la seule mesure. Depuis le 1er juillet 2020, les associations membres sont tenues de mettre en place un système d'enregistrement électronique des joueurs et joueuses, ainsi qu'un système national de régulation des transferts nationaux.
Il faut plus de règles respectées par tous. Nous nous portons très souvent vers les hommes dans le football. Mais celles qui sont le plus exposées, ce sont nos filles, ce sont nos femmes.
Samuel Etofis, président de la Fédération Camerounaise de Football.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La France s'apprête à quitter le Niger à l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec le régime militaire. Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche le retour à Paris de l'ambassadeur et le retrait prochain des 1500 militaires d'ici la fin de l'année. Ce retrait intervient après celui du Mali en août 2022 et du Burkina Faso en février 2023. Dans les 3 cas, Paris a été poussé dehors par des régimes militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État. Une page se tourne après une décennie d'intervention militaire dans la région. Yacouba Ouédraogo a joint dans la capitale nigérienne Issoufou Yahaya, professeur d'histoire à l'université de Niamey.
Sur le plan diplomatique, c'est une véritable humiliation. C'est un camouflet que le président Macron et son pays ont subi, puisque pendant 2 mois, il a affirmé que la France ne partirait pas, qu'il reconnaît le président Bazoum, mais la réelle politique et la réalité des faits l'ont rattrapé. Maintenant, sur le plan sécuritaire, le Niger, tout comme le Mali et le Burkina, vont faire face à leur propre destin. Rien n'est mieux que de sécuriser soi-même son pays et sa population.
Justement, sur le plan sécuritaire, on sait qu'au Mali, particulièrement, ces temps-ci, il y a une recrudescence des attaques. Est-ce qu'il faut craindre le pays dans le Sahel en général, après ce retrait de la France du Niger?
Moi, je pense qu'il fallait s'y attendre à cette situation dans un premier temps. Maintenant, comme les 3 pays ont formé une alliance sur la base justement de l'appropriation de leur propre sécurité, je pense personnellement que dans les jours à venir, ils vont être beaucoup plus en phase avec la nouvelle réalité et faire face à tous les problèmes sécuritaires qui se posent. Puisqu'il faut le dire, et comme peut-être d'autres pays ne leur faciliteront pas la tâche, particulièrement la France.
Quand vous dites que la France ne leur facilitera pas la tâche, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement?
Vous savez que la France, avec l'opération Barkhane depuis 10 ans, n'a pas engrangé de véritables résultats, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger. Et cette absence de résultats a joué pour beaucoup dans cette perte de crédibilité de toutes les forces qui étaient concentrées au Niger. Maintenant que la France n'y est plus, avec tout le ressentiment qu'elle a dû accumuler, vraisemblablement, il y aura sans doute un baroud d'honneur et peut-être, pourquoi pas, s'attendre à ce qu'elle donne un petit coup de pouce à tous ceux qui se soulèveraient contre les différents 3 pays.
Après avoir quitté le Mali et le Burkina, maintenant c'est le Niger. Et donc la France s'en va, il y a l'alliance pour les États du Sahel qui est créée. Qu'est-ce qui va changer dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel en général?
Ce qui va changer de manière radicale, c'est que les Sahéliens ne compteront d'abord que sur eux-mêmes. 1. 2, c'est que les 3 armées réunies peuvent discuter, prendre accord le défi sécuritaire et faire intervenir d'autres partenaires avec lesquels de nouvelles alliances sont en train de se nouer pour faire face efficacement au défi, puisque comme je l'ai souligné, Barkhane n'avait pas de résultat et pendant que toutes les bases installées au Niger, en tout cas les bases nigériennes, étaient détruites, nulle part on n'a vu l'utilité des forces dites internationales.
Eh bien, c'était Issoufou Yahaya, professeur d'histoire à l'université de Niamey.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous nous intéressons au retrait annoncé des troupes françaises du Niger. Après plus d'une décennie de présence dans ce pays clé dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, Comment la France gérera-t-elle ce départ massif et complexe dans un contexte tendu avec le régime militaire de Niamey à la suite du coup d'État du 26 juillet? Quels sont les enjeux, les défis et les implications pour la région? Quel rôle pour les autres partenaires internationaux comme les États-Unis ou l'Allemagne qui ont également des forces sur place? Rendez-vous ce jeudi à 19h15.
Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans vient de nier sa responsabilité dans l'attaque du bateau Tombouctou. Au même moment, le mouvement pour le salut de l'Azawad claque la porte du cadre stratégique qui est en guerre contre le Mali. Les rescapés du même bateau commencent à regagner leur famille. De Tombouctou, notre correspondant Alousseini Aladji.
Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, Jamal Nostra, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a nié sa responsabilité quant à l'attaque du bateau Tombouctou. Cependant, il reconnaît sa responsabilité dans les tirs d'obus sur la ville de Tombouctou. Yehia Tandina, journaliste ayant été témoin de l'occupation djihadiste de 2012, livre son analyse.
Ils étaient avec nous ici en 2012. Ils cherchent à gagner la confiance des populations. En voyant l'attaque des bateaux, on a compris qu'il ne s'agit pas de l'œuvre des Maliens. Ceux qui ont commis cet acte ne sont pas d'ici.
Pour Fatouma Harber, membre de la société civile, ce document publié par Jamal Nostra est une façon de narguer les populations.
Sortir un communiqué même pour dire c'est nous qui avons lancé des bombes sur la ville de Tombouctou, sachant qu'il y a des civils, sachant très bien que des civils peuvent être tués, et dire que bon, ce n'est pas nous qui avons tiré contre le bateau, pour moi c'est la même chose.
À Tombouctou, au moins chaque semaine, la ville reçoit des obus lancés par des groupes armés, ce qui suscite beaucoup d'interrogations. Des voix s'élèvent pour demander s'il faut négocier ou pas avec les groupes armés pour préserver la vie des populations. Yehia Tandina.
Discuter avec qui? Même si on doit discuter, ça ne sera pas avec les anciens interlocuteurs. Je parle de la CMA. On a compris que c'est un groupe qui travaille pour des organisations étrangères. Si on doit discuter, ça se fera avec qui a des consorts. L'État ne va pas discuter en position de faiblesse. Ce n'était pas comme hier où on était en position de faiblesse.
Trois ministres de la République étaient à Tombouctou la semaine passée. Dans la foulée, certains rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou ont pu rejoindre leur famille. Avant de quitter Tombouctou, le porte-parole de la délégation gouvernementale, Madina Sissoko, ministre des Transports, a livré un message aux rescapés.
Qu'ils ont tout l'accompagnement et toute l'assistance des plus hautes autorités, plus précisément le président de la transition, a une salutation à leur égard. Il ne les a pas oubliés et il compte les accompagner en dehors de la séance qui nous réunit cet après-midi.
Au moment où Jamal Nostra a dégagé sa responsabilité en lien avec l'attaque du bateau, quel groupe peut se permettre de tuer autant de civils? C'est cette question qui taraude aujourd'hui les esprits à Tombouctou. Une chose est claire, après Jamal Nostra, aucun autre groupe n'a pour le moment pas dégagé sa responsabilité en lien avec cette attaque. Dans la foulée, le groupe pour le salut de l'Azawad, MSA, annonce à travers un communiqué qu'il quitte le cadre stratégique CSP qui a déclaré la guerre aux autorités maliennes et dit s'inscrire dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Depuis Tombouctou, Alhousseini Alhaji pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao au Mali sur 92.9 FM.
Au Togo, près de 3 millions d'élèves ont fait leur rentrée des classes ce lundi. Pour cette année, la tenue scolaire des élèves sera très suivie par les responsables des collèges et lycées. Un arrêté du ministre des Enseignements réglemente désormais l'uniforme scolaire dans les établissements publics et privés du secondaire. Les tenues fantaisistes, extravagantes et provocantes sont bannies. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
En matière de tenue scolaire, pour les élèves de sexe masculin inscrits dans un établissement public, ce sera une chemise ample et un pantalon descendant jusqu'au talon taillé dans le même tissu de couleur kaki. Pour les jeunes filles, il est exigé une chemise ample en popeline blanche, une jupe ovale ou plissée couvrant les genoux. Basile, un enseignant dans un collège de la capitale, salue cette décision.
Moi, j'enseigne là, ça fait très longtemps, je suis même en voie d'aller à la retraite. Et nous avons assisté liés à des ports de tenue extravagantes. Il y a des garçons qui viennent parfois avec un pantalon où eux-mêmes, ils ont décidé de nous partir, ils ont mis les trucs d'éclair là. Et il y a des filles qui arrivent avec des jupettes, carrément. La fille s'assoit dans son banc et on a comme l'impression qu'elle est venue pour une ascension de mode. Et donc tout ça là, ça nous gênait. Et quand le ministre a pris cette décision, j'ai été le premier à applaudir le ministre.
Aux jeunes garçons et filles, il est aussi exigé le port d'une paire de chaussures fermées aux semelles plates ou des nu-pieds dont la semelle est retenue par une lanière. Les accessoires qui présentent un caractère ostentatoire, blasphématoire ou indécent sont strictement interdits. Dans l'opinion publique, la mesure fait débat.
Moi, je pense qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans tenir compte des réalités de notre époque. Si l'idée de promouvoir les bonnes mœurs doit se faire, ce n'est pas nécessairement à travers les tenues. Les coupes, oui, il faut d'une certaine manière opter pour leur réglementation, mais demander à des élèves du 21e siècle de s'habiller comme des gens du 18e ou 19e siècle, ça peut poser problème.
Mouchoud, un parent d'élève, n'est pas d'accord avec cette manière de voir les choses.
Ceux-là qui parlent de cette manière, c'est plutôt eux qui régressent. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le 21e siècle et que, bon, aujourd'hui nous voyons des changements un peu partout, qu'on ne peut pas harmoniser une tenue pour des apprenants. On parle bien sûr d'apprenants. À travers leur tenue, on comprend déjà que c'est un élève. Moi, je voudrais même dire qu'on pouvait même, pourquoi pas, mettre un sceau de l'établissement auquel l'élève appartient.
Nostalgique du passé, Gilles, un directeur d'entreprise, estime que la charge revient désormais aux responsables des établissements scolaires de maintenir la discipline vestimentaire.
Moi, j'ai fait le Saint-Albert à Tapamé. Attention, vous n'allez pas avec les tapettes la matinée. Et c'est réglou, c'est comme ça quoi. Et moi je pense que ça revient maintenant au chef d'établissement de prendre ce communiqué et puis l'utiliser en bon escient. C'est toi qui dirige l'établissement. Un parent qui amène un enfant comme ça dans un établissement, tu corriges l'enfant ou bien tu renvoies l'enfant à la maison.
Dans les collèges et lycées privés, les mêmes exigences vestimentaires sont requises. Les autorités concèdent tout de même aux responsables de ces établissements le choix des couleurs de l'uniforme de leurs élèves. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a créé un nouveau bureau fédéral chargé de prévenir la violence à l'aide d'armes à feu. Une décision qui intervient alors que les mesures de contrôle des armes à feu sont toujours dans l'impasse au Congrès. La correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, fait le point. Le récit est de Michel Joseph.
Avec 120 armes à feu pour 100 personnes, les États-Unis sont le pays le plus armé au monde. Et selon le Giffords Law Center, plus de 116 personnes y meurent chaque jour des suites de violences à l'aide d'armes à feu. La semaine dernière, le président Biden a décrié les plus de 500 fusillades et plus de 30 000 décès liés aux armes à feu déjà enregistrés en 2023.
Les armes à feu sont le premier facteur de mortalité infantile en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, plus que les accidents de voiture, plus que le cancer ou d'autres maladies.
Le chef de l'exécutif américain a annoncé la création d'un nouveau bureau fédéral pour appuyer l'application des lois existantes. Celui-ci renforcera aussi les efforts en vue de mieux contrôler les armes à feu. Le président Biden en a confié la responsabilité à la vice-présidente Kamala Harris. Soutenue par les militants du contrôle d'armes, la mesure est dénoncée par les lobbies de l'industrie de l'armement. Ainsi, la National Rifle Association a accusé le président Biden de s'en prendre injustement aux droits reconnus aux citoyens par le deuxième amendement de la Constitution de porter des armes à feu, un argument que rejette la vice-présidente Harris.
Le président Biden et moi croyons au deuxième amendement, mais nous savons aussi que des solutions relevant du bon sens existent.
Il n'est pas clair si le nouveau bureau aura un impact sur les efforts politiques, en particulier ceux touchant le Mexique voisin, où le contrôle des armes est plus strict et où la plupart des armes entrent en contrebande à partir des États-Unis. Karine Jean-Pierre est la porte-parole de la Maison-Blanche.
Il y aura des contacts réguliers entre le SNC et l'équipe du ministère de la Sécurité intérieure. Ainsi, nous ferons tout ce qui est possible pour combattre le trafic international ainsi que la contrebande.
La semaine dernière, un groupe de républicains de la Chambre des représentants a introduit un projet de loi qui interdirait au président de déclarer une urgence dans le seul but d'imposer un contrôle des armes à feu.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Limassi, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.